Alors, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis économiste de formation, je suis chef d'entreprise également. Et pour être, je suis citoyen du monde. Voilà. C'est vraiment un début de vie assez particulier. J'étais dans le ventre de ma mère quand nous avions été, ma famille et moi, on a été exilés politiques. On a dû fuir du Bénin et de façon clandestine. Donc, je suis arrivé en France en tant que réfugié politique avec ma famille. Et je suis né dans cet exil-là. Je suis né donc à Paris, toujours en tant qu'exilé. On est rentré en contact avec le Gabon. Donc, les autorités gabonaises qui nous ont offert l'exil, enfin, ils nous ont offert l'hospitalité. Et est arrivé un moment, un événement assez particulier dans ma vie. Professionnel, il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas très légales, avec des choses très très graves. Et comme j'avais une délégation de pouvoir, je ne pouvais pas me substituer à qui que ce soit. Donc c'était ma responsabilité. Et donc ça m'a entraîné à lancer des procédures contre mon employeur à l'époque. Et l'une des plus belles choses qui me soit arrivée, un très bon souvenir, c'est que j'ai mes collaborateurs qui, au péril de leur emploi, ont fait grève. C'est-à-dire qu'une plusieurs dizaines donc, de mes collaborateurs ont fait grève. En tant que des enfants, non, je dis bien enfants mineurs, hein, on nous gardait à l'aéroport. Donc, pendant très longtemps, j'ai eu cette peur de la police, des hommes en uniforme. J'ai eu très peur pendant très longtemps, des hommes en uniforme.
Bonjour Serge, comment vas-tu?
Très bien, Yann, comme d'habitude.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir.
C'est une conversation, en fait, ça fait tellement d'années qu'on se connaît, qu'en fait, on a tellement de conversations sur tellement de sujets, que je me suis dit, vu que je commence à interviewer des gens, je ne peux pas ne pas t'interviewer. C'est obligé.
Tu beaucoup d'honneur pour moi. Hein. Je suis très honoré.
Ouais, t'exagères un peu, c'est pas...
Un petit peu quand même.
Bon alors, écoute, est-ce que tu peux te présenter?
Alors, donc, je suis de sexe masculin, je m'appelle Serge Ngbedji, parce qu'aujourd'hui c'est important de le préciser, parce qu'on ne sait pas toujours qui est qui. Alors j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis économiste de formation, formation que j'ai eue de la Sorbonne à l'IAE, donc l'Institut d'administration des entreprises de Rennes. Je suis chef d'entreprise également, et pour être... Je suis citoyen du monde. Voilà. C'est ce qui me définit le mieux.
D'accord. En fait, moi, ce qui m'intéresse, la raison pour laquelle avoir cette conversation avec toi est quelque chose d'intéressant pour moi, c'est qu'il y a plusieurs aspects je pense qui peuvent apporter beaucoup de choses aux personnes qui vont nous écouter. C'est un peu moi, je dirais ton parcours de vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Donc, question très, très ouverte. Comment tu résumerais ton parcours de vie?
Alors, je pense que mon parcours de vie, il y a une, deux, j'ai trois étapes importantes dans ma vie. La première étape, c'est vraiment un début de vie assez particulier. J'étais dans le ventre de ma mère quand nous avions été, ma famille et moi, on a été exilés politiques. Donc, on a dû fuir le Bénin parce que je suis d'origine béninoise. On a dû fuir du Bénin et de façon clandestine. Et j'ai des oncles qui ont fui le Bénin de façon très très clandestine. Je veux dire en ayant à peine une serviette sur le corps. Donc, je suis arrivé en France en tant que réfugié politique avec ma famille. Et je suis né dans cet exil-là. Donc, dès qu'on a quitté le Bénin, moi j'étais dans le ventre de ma mère. Je suis né donc à Paris, toujours en tant qu'exilé. Quelques mois plus tard, on est rentré en contact avec le Gabon. Donc, les autorités gabonaises qui nous ont offert l'exil, enfin, nous ont offert l'hospitalité. C'est le terme, c'est vraiment le bon terme d'hospitalité, donc à travers Omar Bongo Ondimba. Donc l'hospitalité au Gabon, et donc c'est un pays que j'affectionne particulièrement parce que j'ai passé 18 ans de ma vie, 18 très belles années, avec des gens que j'ai rencontrés comme toi et plein d'autres, et avec qui je suis encore en contact. Et ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon développement aujourd'hui, ça fait partie de. C'est tout ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ce vécu. Et donc, j'étais au Gabon, on était donc au Gabon en tant qu'exilé politique. Et puis, écoutez, c'était à une époque où le Gabon, en fait, avait besoin d'intellectuels. Et il se trouve que mes parents répondaient aux critères également. Donc, mon père était administrateur civil, il avait travaillé longtemps à l'ESG, à la direction générale, et ma mère était enseignante. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé au Gabon. On a été très bien accueillis, très bien intégrés. Aucun souci. Et le Gabon, c'est ma patrie de cœur, hein. Faut le dire. C'est ce Gabon que j'ai tout connu. J'ai appris à parler au Gabon, j'ai commencé à écrire au Gabon, toute ma vie d'adolescente a été faite au Gabon, avec toi, avec certaines autres personnes. Et voilà, donc ça, c'est la première partie. Après, bon, j'ai eu mon bac. Deuxième partie, je suis venu en France, j'ai fait mes études, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler. Donc, là, rien de spécial. C'est vraiment un parcours de vie, là, sur la deuxième partie, qui est tout à fait classique. Et est arrivé un moment, un événement assez particulier dans ma vie professionnelle, où je travaillais pour un grand groupe. J'étais directeur. Un grand groupe d'un centre de profit relativement important qui pesait plus de 15 millions d'euros à l'époque. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que j'ai quand même signé un protocole de confidentialité, mais en gros, il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas très légales, avec des choses très très graves. Et comme j'avais une délégation de pouvoir, je ne pouvais pas me substituer à qui que ce soit, donc c'était ma responsabilité. Et j'ai dû donc faire face à des difficultés énormes, même face à la direction qui ne voulait pas entendre raison. Et donc, ça m'a entraîné à lancer des procédures contre mon employeur à l'époque. Et une chose formidable qui m'est arrivée, et je pense que c'est aussi l'une des plus belles choses qui me soit arrivée, un très bon souvenir, c'est que j'ai mes collaborateurs qui, au péril de leur emploi, ont fait grève, c'est-à-dire plusieurs dizaines de collaborateurs ont fait grève pour moi. Donc ça, c'est la deuxième partie de la troisième partie de ma vie qui a commencé à ce moment-là et qui a débouché sur le fait que je sois employeur à mon tour, donc que je sois chef d'entreprise. Sur le plan personnel, j'ai une vie assez classique. Marié, j'ai rencontré ma femme à la fac, je me suis marié, on a eu deux enfants. Alors, on a construit notre vie de façon assez classique. Voilà.
Ok,
Donc,
c'est super intéressant parce que j'ignore, enfin, le côté exil, je pense que tu m'en avais déjà parlé, mais de manière très très brève et superficielle. Donc là, on va dire que je découvre presque des éléments en fait.
oui, c'est vrai
J'avais
que.
jamais compris pourquoi ou comment vous étiez arrivé au Gabon en fait.
Là, oui.
Je savais qu'il y avait une histoire d'exil politique un peu dans la famille, mais de très loin. Et enfin, de toute façon, à l'époque, c'était pas nos sujets.
Non,
Enfin.
non, on ne s'occupe pas de ça. Et puis,
Ouais.
c'est des sujets, si tu veux, qui peuvent marquer un enfant, l'enfant que j'étais, parce que moi, j'ai connu l'exil de ma naissance jusqu'à 1990, c'était officiellement exilé en politique. Et je me rappelle des moments où je rentrais, on allait au Bénin pour voir nos grands-parents. On se faisait arrêter à l'aéroport, en des enfants, hein, parce que mon père n'avait pas le droit d'entrer au Bénin. Ma mère, elle, ça va, elle arrivait à rentrer sans problème. Et nous, comme on portait le nom, un nom qui n'était pas très, très apprécié par les autorités à l'époque, on nous gardait des fois à l'aéroport pendant des heures, en tant que des enfants, non, je dis bien enfants mineurs. Hein, on nous gardait à l'aéroport. Donc, pendant très longtemps, j'ai eu cette peur de la police, des hommes en uniforme. J'ai eu très peur pendant très longtemps des hommes en uniforme. Jusqu'à pas très longtemps, hein, jusqu'à peut-être mes 16-17 ans, j'avais encore peur de cela. Et puis après, j'ai eu un rejet. Et en fait, après, j'ai une réaction qui était contraire, c'est totalement opposé. Et c'était un peu la haine de ces personnes-là. Bon, maintenant, je suis passé à autre chose, hein. J'ai grandi, je sais faire la part des choses, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même traumatisé et que je pense a dû traumatiser aussi mes frères qui ont subi cela. Voilà.
Ouais,
C'est
non, c'est
partie, c'est
intéressant.
aussi ça qui fait moi ce que je suis. Et je pense que tout ça a contribué au fait que, à m'aider, avec l'éducation de mon père également, mais le respect des règles. Tu sais, quand on voit un policier, il y a une autorité. Moi, je considère que c'est une autorité aujourd'hui. Vraiment, c'est très clair dans ma tête. Et qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a une autorité. Voilà. Et ça, c'est des valeurs que mon père m'a transmises et que je transmets à mes enfants également. Et j'espère qu'ils sauront en faire bon usage.
Ok, il y a un sujet qui est intéressant quand même par rapport à l'exil, entre guillemets, nous qui vivons à l'étranger depuis de nombreuses années. Donc, bon, toi et moi, on s'est rencontrés au lycée à 14 ans, de mémoire.
Ouais, oui, à 14 ans. À
À
14 ans.
14 ans,
C'est
voilà.
3 ans.
Donc aujourd'hui, on a 47 ans. Ça fait 30 ans qu'on se connaît.
Non. Ça fait presque 35 ans qu'on se connaît. Presque 35.
Ok.
On
J'ai
avait
mis un.
14, presque
Ah oui,
14
pardon. Putain, je sais même pas compter. C'est
Voilà.
triste.
Mais
Ouais.
voilà.
Ok.
Donc, non,
C'est normal. Mais
non,
toi, t'étais bon.
on va
Écoute.
essayer d'oublier ça, allez, on est.
Toi, t'étais bon en maths, tu vois. Moi, j'étais nulle en maths. J'avais 2, 3 de moyenne. Quand le prof annonçait, il disait Liliane, 3. Je rigolais. Ça m'était franchement
Oui,
égal, quoi.
je me souviens très
Donc.
bien. Mais écoute, c'est pas ça qui fait l'homme.
Non, on le sait aujourd'hui.
Le sait aujourd'hui, voilà.
Ok, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand on, nous qui vivons à l'étranger depuis très longtemps, donc moi je suis partie, j'avais 17 ans, donc ça fait longtemps. Moi je trouve que j'ai appris les pays où j'ai vécu, j'ai appris à m'adapter, j'ai souvent été en minorité, tout le temps, tout le temps. Au travail, tout le temps, partout, et même aujourd'hui encore. Comment tu penses que cette expérience de l'exil, qui est très spéciale, que tout le monde n'a pas vécue, moi je sais que ça, le fait d'être toujours en minorité depuis des années, j'ai appris dans les endroits où je vais à m'adapter, j'ai appris à me taire, ce qui était nécessaire dans mon cas. Mais donc ces expériences-là nous, je redis presque, nous sculptent un peu finalement. Les petits côtés qu'on avait qui étaient un peu trop pointus, qui étaient un peu. Tout ça devient plus soft avec les années parce qu'on les expériences nous façonnent. Curieuse de savoir si toi, cette expérience de l'exil, t'a un peu façonné ou pas, hein, parce que peut-être que pas tant que ça finalement, mais je suis curieuse de savoir.
Oui, fatalement. Fatalement, dans mon rapport avec les gens, dans mon rapport avec le lieu où je vis. Des règles. Respect des règles. Là où on est, on respecte les règles qui sont. Et on n'essaye pas d'imposer les siennes, etc. Le respect des règles. Ensuite, il faut pas être le roi. C'est-à-dire que quand tu vas quelque part, dans un quelconque pays, tu ne vas pas t'avancer, commencer à être plus royal que le roi, à faire. En fait, je pense que c'est une conséquence directe de l'exil. C'est-à-dire que ce que, par exemple, au Gabon, ce que le Gabonais ne faisait pas, ne faisait pas, c'est-à-dire que je n'allais pas me mettre en avant et puis le faire à sa place, ou bien me mettre en disant, ouais, moi, etc., etc. Non. L'humilité. L'exil apprend à être humble. Parce que d'un jour, parce que mes parents, moi, ont beaucoup parlé de tout cela. Quand d'un jour, du jour au lendemain, tu dois quitter ta patrie et errer, parce que c'est un peu ça à un moment, et errer dans le monde et savoir où tu vas aller, ton pays te rejette, où est-ce que tu vas aller, comment ça va se passer, etc. Tu apprends beaucoup d'humilité. L'humilité. Quelle que soit la condition. Et d'ailleurs, moi, le Gabon m'a apporté aussi ça, parce que quand on était, toi, je crois que tu étais à l'Immaculée Conception, moi j'étais à Léomba, on avait cette chance formidable d'être tous ensemble, riches, pauvres, enfants de ministres, enfants d'ouvriers, et le seul critère qui faisait qu'on se retrouvait à Léomba ou à l'Immaculée Conception, c'était nos résultats à l'entrée en sixième à l'époque. C'était nos résultats. Donc, ce qui faisait qu'on était à l'école avec des fils d'ambassadeurs, avec des gens qui venaient du Moyen-Orient, qui venaient de Chine. Kim Un, par exemple, qui était, je pense, tu te souviens de lui, Kim Un. Non, peut-être pas.
Le nom
C'est
me dit quelque chose.
un Coréen, hein, ou bien de Français qui était avec nous. Enfin, ce qui faisait qu'on est vraiment dans un melting pot où il n'y avait pas de différence sociale. D'ailleurs, on avait l'uniforme. Donc, ce qui vraiment lissait encore plus les choses. Et ça, voilà, c'est.
Moi, je te challengerais sur le fait qu'il n'y avait pas de différence sociale. Peut-être que certaines personnes ressentaient la différence sociale, mais toi, tu ne la ressentais pas. Nous, on ne la ressentait pas plus que ça.
Bon,
Mais.
alors, il y a les extrêmes. Mais en règle générale, je veux dire, le matin, tu te mets à l'entrée du lycée, moi j'étais en bas, donc il est en bas, tu vois les élèves passer, tu ne voyais aucune différence. Après, bien sûr, il y avait les discours tenus par certains enfants qui te disaient qu'ils vont aux États-Unis pendant les vacances, d'autres qui vont dire, ben non, moi je vais à Mwanda, d'autres qui vont dire, ah, non, moi je reste là parce que j'ai pas les moyens. Après, oui, bien sûr, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Où tu avais les voitures aussi, les gens se faisaient déposer, etc. Ça, il y avait quand même des choses
Oui,
qui montraient.
mais tout était fait en tout cas pour que ce soit vraiment lissé et qu'on ne ressente pas au niveau de l'école. D'ailleurs, l'entrée en sixième est quelque chose d'extraordinaire où les meilleurs étaient avec les meilleurs. Bon, c'était comme ça. Lycée Lomba, c'était parmi les meilleurs élèves qui allaient au lycée Lomba ou bien Immaculée et Abbé-Sieu. C'était sur la base. Ce que je veux dire, c'est que il y avait une base qui était la base travail et résultat. D'ailleurs, on avait des moyennes avec un classement, etc. Ceux qui avaient la moyenne avaient la bourse, ceux qui n'avaient pas la moyenne n'avaient pas la bourse. Enfin, il y avait donc plusieurs paliers. 12, tu avais le tableau d'honneur. 13, tu avais les encouragements, etc., etc. Et voilà, donc ça, je trouve ça vraiment fantastique. Tout ça basé sur le travail.
C'est marrant, c'est intéressant que toi, ça t'ait marqué. Moi, c'est des trucs auxquels je pense jamais.
Ben moi, ça m'a marqué parce que quand je suis passé de Lyon-Bas à Lespascal, ça m'a manqué. Ça m'a manqué d'avoir ce challenge-là. Je me souviens très bien quand j'étais en cinquième. C'est une année qui m'a le plus. Moi, d'ailleurs, j'ai recroisé il y a quelques jours, c'est une petite parenthèse, mais j'ai recroisé il y a quelques jours un très bon ami avec qui on a passé de très bonnes années au lycée Lyon-Bas quand j'étais en sixième. Alors, je ne sais pas si je peux le nommer, mais je veux dire, son nom, il s'appelle Sima. Et s'il entend s'il a accès à cette vidéo, il se reconnaîtra. Et il m'appelait à l'époque le gros Zoumbéji.
Le quoi?
Le gros Zoumbéji, parce que j'étais assez rond, etc. Mais c'était gentil. Bon, tu sais, les enfants, voilà, c'était gentil. Et puis on rigolait, on s'amusait bien ensemble. Et donc, pour revenir à ce que je veux dire, c'est qu'en cinquième, c'était une année qui était formidable pour moi parce que j'ai commencé à rentrer dans le challenge. C'est-à-dire que. Donc avec, je voulais être le meilleur, etc., etc. Et j'étais avec, il y avait quelqu'un avec qui je suis encore en contact, qui est son médecin. Alors je sais pas encore si je peux nommer son nom, mais il
Ben, je pense
s'appelle
que tu
Guy.
peux, il n'y a rien de grave.
Il s'appelle Guy. Quand il sera qui. Et en cinquième, on était premier, deuxième. Et en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui me motive, c'est-à-dire de savoir que tu as du challenge et que tu travailles, tu sais ce que tu as, tu vas avoir. Voilà, c'est ça qui me challenge dans la vie. Et moi, quand j'ai quitté Lomba, j'étais triste. Je suis allé à Blaise Pascal. On avait des moyennes plus ou moins, des trucs comme ça. Bon, il n'y avait aucun challenge qui me forçait à donner le meilleur de moi-même. Parce qu'il y avait, tu avais une moyenne, tu avais une note, tu sais même pas où tu te situais. Et ça m'a beaucoup manqué à Blaise Pascal.
Ah bah moi,
Et
je
du
me
coup.
souviens que tu étais quand même compétitif. Hein,
Non, mais
quand
j'étais
t'as,
bien.
t'avais à la récréation, quand on donnait les résultats, des notes, en tout ce qui était scientifique, à l'époque des rentrages, ce qui n'est pas un très beau terme, mais c'était l'époque des rentrages. Et à la récréation, moi, je t'entendais avec certains gars qui étaient bons. Vous étiez en mode compétition, pareil. Je ne veux pas trop citer de noms parce que j'ai des noms qui me reviennent de personnes. Je ne sais même pas où ces personnes sont. Mais il y avait quand même pas mal de compétitions. Moi, je me souviens, si tu avais 16 et que telle personne avait eu 18, il y avait quand même des rentrages assez
Oui,
sérieux.
mais c'était pas ça, c'était sur une note, etc. On faisait
Oui.
tout le monde des moyens, mais ça m'a manqué à Bessos. Ça m'a manqué vraiment de pouvoir se situer par rapport aux autres, et moi, pour moi, c'est un moteur. De pouvoir me
Mais
situer aussi.
c'est clair qu'avec du recul, je trouve que, enfin. Je parlerai que de moi en général. La vie était un peu trop douce et donc moi pour ma part, je trouve que j'étais pas vraiment. J'avais de bonnes notes, mais j'étais pas à fond quoi. J'étais en mode cool.
Oui,
En fait, on n'avait pas idée de ce que serait la vie après parce que la vie était très agréable et douce.
bien sûr.
On était quand même privilégiés, donc
Il faut le dire, il faut le
on
reconnaître.
était privilégiés, on n'avait pas conscience de ce que c'était que la vraie vie. Et bah, je pense qu'après, on a
Après,
pris conscience.
non, mais bien sûr, mais
Mais on
après,
n'était pas préparés, en fait, du tout.
bah, moi, mon père nous a, j'ai envie de te dire qu'il nous a préparé à beaucoup de choses. Il avait les moyens de faire un certain nombre de choses qu'il ne faisait pas. Parce qu'il disait, je ne vais pas vous habituer à des choses que vous-même, vous, peut-être vous ne pourrez pas vous offrir. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez voulu quelque chose, il va falloir que vous travailliez pour avoir ce que vous voulez. Moi, mes parents ne m'achetaient pas des Air Max à l'époque à 150 000 francs. Hein. Jamais. Tu aurais jamais vu des Air Max sur moi. Les fringues, c'est des fringues classiques, etc. Mais jamais d'extravagance. Jamais, 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 jamais. Si bien que quand j'ai commencé à travailler, moi, je n'ai pas couru après les marques. J'ai jamais couru après les marques en disant, ah, il faut que j'aie un truc, il faut que j'aie le truc Dior, etc. Non. Je mettais mon argent ailleurs. J'ai mis mon argent ailleurs que dans des marques, etc., etc. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est une éducation de mon père. Mais ceci nous a quand même apporté un certain confort que je ne peux pas nier, hein, parce que voilà. Mais il n'était pas. Il était vraiment. Il nous a appris la valeur travail. La valeur travail, travail, résultat. Et quand tu travailles, que tu as des résultats, ben, tu obtiens quelque chose. Voilà.
Non, complètement.
Ouais.
Après, je pense que nos parents nous ont quand même donné, on avait quand même de bonnes bases
Bien
dans
sûr.
cet environnement un
Bien sûr.
peu où il y avait de tout.
Bien
Je pense
sûr.
qu'on avait quand même de bonnes bases, mais
Il n'y avait pas tout
avec
hein,
le
dans
recul.
à Blaise Pascal, il n'y avait pas tout. Hein. Il y avait 95% de personnes très nantis à Blaise Pascal. Ou
Pardon, je
d'expat.
m'exprime mal. Quand je dis il y avait un peu de tout, c'est-à-dire pour moi, parmi des personnes qui étaient nanties, t'avais un peu tout. T'avais des gens qui avaient de très très bonnes valeurs. Ils étaient nantis, mais ils avaient de très très bonnes valeurs.
Ah
Et je
oui.
citerai pas de nom, surtout pas.
Moi, j'en
Mais
connais.
je pense à certaines personnes qui sont au Gabon et qui sont encore un peu dans l'environnement de mon frère. Y a deux trois personnes, notamment une personne à laquelle je pense. Les parents étaient nantis, ils le sont toujours à mon avis, mais ces deux garçons qui étaient à Blaise Pascal avec nous. Et en fait, pour moi, c'est des personnes que je respecte beaucoup parce qu'ils ont de bonnes valeurs et ils en ont toujours eu.
Je suis en train de chercher qui c'est, mais
Non, mais qu'importe,
ouais.
on
Mais
s'égare.
moi, on parle de personnes comme ça. Ouais, il y en a une qui m'a vraiment bluffé, qui m'a bluffé tout le temps que j'ai passé à Blaise Pascal avec elle. Vraiment, j'ai énormément de respect pour cette femme, qui est une femme aujourd'hui, qui ne vit plus au Gabon, qui vit plus au Gabon. Alors.
On devrait peut-être pas citer de nom et c'est pas vraiment l'objet de la conversation.
Oui,
Mais bon,
mais
vas-y, vas-y.
bon, voilà. Et franchement, ça m'aurait fait plaisir qu'elle voie ça et que je puisse dire son nom, mais au moins son prénom. Bah, en même temps, quand on dit Natacha, ça veut rien dire.
Ok,
Voilà.
je crois savoir. Je crois savoir, ouais. Mais
Oui.
c'est vrai que moi aussi, j'ai bien envie. Il y a certaines personnes qui étaient avec nous au lycée que j'ai franchement envie d'interviewer, honnêtement, avec grand plaisir. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, juste pour revenir sur le sujet. Donc après, il y a le côté professionnel. Et c'est vrai que à un moment donné, si j'ai bien compris, tu as eu cet événement assez violent professionnel où il y a eu une rupture de contrat.
De ça. Il y a eu même, en fait, il y a eu même un licenciement. C'est très simple, il y a eu un licenciement dans un tribunal au tribunal. C'est-à-dire que j'avais assigné mon patron et c'est devant la. On allait à l'audience, il m'a remis ma lettre de licenciement. Dit, Monsieur Béziers, vous êtes licencié. Et donc, du coup, il n'y a plus l'audience. Et c'est suite à ça que j'ai eu une réaction je pense, qui restera gravée dans mon esprit à jamais. Mes collaborateurs, à l'époque, donc, ça s'est passé un vendredi. Le lundi, mes collaborateurs ont appris cela. Ils ont fait un débrayage. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on arrête le travail en 2 heures. Et on veut savoir où est notre directeur. C'est comme ça que ça a commencé.
Mais extrêmement rare ce genre de comportement.
Pour moi, c'est une fierté de le dire. Et puis, je suis
Ouais.
encore en contact avec certains d'entre eux. Et franchement, oui, je pense que c'est ma plus belle victoire.
De ce que moi j'ai compris de cette expérience, parce que bon, on en avait parlé déjà, ce qui a fait que, quelque part, tu vas me dire si c'est juste de résumer ça comme ça, mais en quelques mots, tu t'es rendu compte que le comportement qu'il y avait et qui t'a emmené, c'était pas du tout en accord avec tes valeurs.
C'est exactement ça.
Donc, est-ce que tu peux un peu rentrer plus dans le détail? Parce que je pense que dans un monde où on est, où tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes cherchent à gagner plus d'argent, tout le monde veut travailler, certaines personnes vivent dans la peur de se dire, ah, si je me retrouve sans emploi, comment je vais faire? Donc, dans certaines situations, on peut, et je ne porterai pas du tout de jugement, je ne jetterai pas la pierre à quelqu'un qui le ferait. On est dans la peur et on se dit, ah, mais c'est mon employeur, c'est pas correct, mais bon, tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux, je ne vais pas perdre mon boulot. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cet aspect valeur et pourquoi, selon toi, c'était important que tu restes aligné avec tes valeurs?
Alors, la première raison était une raison qui était très factuelle. J'étais directeur avec une délégation de pouvoir très, très étendue. C'est-à-dire que j'avais les pouvoirs du gérant de la société, de la grosse boîte. Donc, j'avais toute ma responsabilité, ainsi que ma responsabilité pénale était engagée. Et au vu de ce qui se passait dans la structure, ma responsabilité pénale aurait pu être engagée à plus d'un titre. Donc, il y avait déjà cet aspect-là, mais il y avait cet aspect qui était important. Mais au-delà de ça, je me levais tous les matins et je me posais la question en me disant, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Parce que je faisais un boulot où on m'imposait des choses qui étaient contraires à mes valeurs, à mes principes. Et à un moment, je me suis dit, Serge, si tu n'éprouves pas du plaisir à travailler, à un moment, non. Et puis moi, je suis quelqu'un d'extrêmement humain. On va dire que j'aime mon prochain.
Tu peux répéter, s'il te plaît?
J'aime mon prochain. Pour emprunter des termes bibliques. J'aime mon prochain et voilà. Donc ça veut dire, c'est très large, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, l'injustice, j'aime pas ça. L'abus de pouvoir, j'ai horreur de ça. Et j'étais confronté à ça tous les matins, tous les jours. Et je voyais des collaborateurs à qui on faisait des choses. Des exemples simples, c'est que quand tu as quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans dans une boîte et que la personne n'a jamais eu une augmentation de salaire, en 20 ans, ces trucs comme ça, moi, ça m'a rendu fou. Bien des gens qui travaillent et on ne les paye pas. Ou des gens qui ont des fiches de paie qui ne servent à rien parce que ça ne ressemble à rien. J'ai commencé à prendre le sujet à bras le corps. Donc, j'essaie de régler tout ça, et tout ça avec beaucoup de communication. Je parlais avec mes collaborateurs, j'apprenais à les connaître, j'apprenais où est-ce qu'ils vivaient, leur environnement familial. Enfin, j'ai vraiment fait du social, ce qui me correspond en fait. Et donc, très rapidement, j'ai eu le soutien non seulement des salariés, mais même des syndicats, alors que j'étais directeur. C'était extraordinaire. J'ai envie de dire que les syndicats, voyant les efforts que je faisais, à un moment, ils me disaient, monsieur Medjé, est-ce que ça va, tout va bien? Je dis, oui, tout va bien. Ils disent, bon, il y a tel point qu'on doit régler, comment est-ce qu'on fait? Je dis, ben, écoutez, on va se voir, on va discuter, mais il n'y a que des solutions. Et j'avais une attitude très, très positive. Très, très positive. Et vraiment tout ça basé sur le respect de l'homme, parce que je pense que et c'est d'actualité aujourd'hui, je vais emprunter une phrase à quelqu'un: il n'y a de richesse que d'homme. Voilà, c'est que même quand on a une entreprise, quel que soit le niveau, et d'ailleurs aujourd'hui on le voit très bien, et tout ce qui se passe aujourd'hui me conforte dans ce que j'ai fait il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est que si vous ne mettez pas l'homme au centre de ce que vous faites, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, l'entreprise, d'ailleurs aujourd'hui, quand on voit les entreprises, elles font tout pour le bien-être de leurs salariés. Elles font tout pour. Elles donnent des primes, elles donnent l'argent, elles augmentent des salaires, elles créent un cadre de travail agréable, des cours de yoga entre midi et 14 heures, etc., etc. Donc, voilà. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me, c'est ça qui me, qui me, que j'aime, qui me motive, qui me donne envie d'aller travailler, etc., de savoir que mes collaborateurs sont bien. Et pour faire là, et c'est ça qui m'a un peu emmené à basculer de côté, à être chef d'entreprise et pouvoir finalement m'exprimer, être moi, en fait. Juste être moi. Donc, avec mes valeurs. Bien sûr, quand on a ce genre de valeurs et qu'on les applique, faut pas être, on n'est pas dans les bisounours, hein, dans les bisounours, hein. C'est qu'à un moment, au lieu de gagner 10, on gagnera 2 ou 3. Parce qu'on a une façon, un management qui est plutôt assez souple et puis qui prend en compte le bien-être des collaborateurs. Et moi, je l'ai pas fait dans un esprit de gagner plus. J'ai fait dans un esprit d'être moi-même et d'être moi, tout simplement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand les entreprises le font, c'est dans le but d'avoir une productivité plus importante, d'avoir
Bien
une
sûr.
rentabilité plus importante, etc. Moi, c'était pas dans ce but-là. Moi, c'était vraiment dans le but d'être en phase avec moi-même et de pouvoir transmettre mes valeurs à mon équipe, aux gens qui m'entourent et puis travailler dans des conditions où tu sais, quand tu vas au travail, t'as plaisir à y aller. Moi, je me souviens que moi, mes collaboratrices, tous les samedis, elles me faisaient à manger. Elle m'emmenait de la manger de chez elle, etc. Et puis il y avait toujours qui était pas très loin de moi et qui me disait, Monsieur Serge, vous avez besoin de quelque chose, machin, parce qu'on avait créé ce lien, qui n'est pas seulement un lien de subordination, mais aussi un lien humain, tout simplement. Quand il fallait travailler, il travaillait. Mais quand il fallait, en dehors du travail, il y avait ces liens-là. Quand il y avait des pauses, je les voyais régulièrement, qui me demandaient qu'est-ce que j'avais envie, etc. Et elle m'emmenait à manger gratuitement. C'est pas, il n'y avait pas de lien d'argent. Et ça, c'était, voilà, c'est moi, ça.
Donc Serge, en fait, en gros, tu nous parles un petit peu de tes valeurs. Donc moi, je considère, et les personnes que je coach, on travaille souvent sur ce concept de valeurs. On a besoin d'identifier nos propres valeurs pour être capable, justement, quand on traverse des périodes un peu difficiles, que ce soit professionnellement ou dans la vie perso. À un moment donné, on se dit, mais est-ce que c'est aligné avec mes valeurs ou est-ce qu'il faut que je réévalue mes valeurs? Mais en tout cas, il y a un manque d'alignement. Au regard de l'expérience que tu viens de partager avec nous, quelles sont tes trois valeurs? Je dis trois parce que, juste pour rester concise, quelles sont tes trois valeurs qui guident un peu tes...
Alors, et sont des valeurs, non seulement ce sont mes valeurs, mais c'est des valeurs aussi que je veux inculquer à mes enfants. C'est la valeur travail, c'est-à-dire que le travail, c'est la base de tout homme avec un grand H. C'est à travers le travail qu'on se réalise, qu'on trouve sa place dans la société, que l'on s'assume. Donc, la valeur travail. Ensuite, avant cette valeur travail, c'est la famille. Parce que certains disent, on dit que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Et j'ai envie de dire que la famille, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Donc la famille, c'est essentiel. Et moi, je me repose aussi beaucoup. Moi, je me repose beaucoup sur la famille. La famille au sens restreint et aussi au sens large. Et je peux avoir des problèmes avec quelqu'un dans ma famille, ça peut arriver, hein, mais je n'admettrai pas que quelqu'un de l'extérieur vienne critiquer. Je dirai à cette personne, garde tes critiques pour toi. Voilà, donc la famille, c'est important. Si on n'arrive pas à protéger sa famille, ben on est perdu, parce que seul, on n'est rien. Parce que quand on est au sommet de son art, c'est bien, mais quand on est au creux de la vague, ben, des fois, on aime bien se rompre. On aimerait bien avoir quelqu'un à côté, des gens avec qui parler. Et quand je parle de famille, attention, il y a la famille du sang, ceux qui ont le sang, le même sang que moi, qui coule dans mes veines, etc. Mais aussi la famille de cœur. Et j'ai de la chance d'avoir aussi cette famille-là, la famille de cœur, dont tu fais partie, hein, d'ailleurs, Liliane, hein, tu le sais très bien depuis toujours. Et ça, voilà, c'est des personnes sur qui. On peut compter, quand ça ne va pas, on sait qu'on peut prendre le téléphone et appeler et puis dire, écoute, là, ça ne va pas du tout. Et puis parler pendant des heures, on sait qu'on a une oreille qui nous écoute. Et la troisième valeur, c'est être bienveillant. Parce que je trouve que ça manque aujourd'hui, ce monde de la bienveillance. Et je parle de ça, je dis tout ça à ma fille. Il faut être bienveillant, je lui explique ce que ça veut dire. Je lui dis, voilà, c'est une valeur qui est essentielle aujourd'hui pour moi.
Et moi, je me souviens de toi au lycée particulièrement, parce que bon, je vais parler de moi. J'ai dit, certains d'entre nous, on était particulièrement cons quand on était jeunes. Et comment dire, moi, j'étais assez, comment dire, impulsive, intense, très intense. Et c'est vrai que toi, et donc, moi, j'étais plus dans le. Moi, j'étais. C'était blanc ou noir, hein, c'est soit je
C'est
t'aime, soit je t'aime pas.
ça.
Et j'étais ravie de le faire savoir en plus.
Exactement.
Donc, mais toi,
Avec
par
fracas.
contre, tu avais cette maturité déjà, que moi, je n'avais pas du tout. Tu étais bienveillant, même quand, franchement, tu avais des raisons de pas l'être. Mais c'était comme ça. C'était la personne que tu étais. Et je sais que ma mère disait toujours que tu étais toujours souriant. Et c'est comme ça qu'elle te voit de toute façon. Pour elle, Serge, c'est le sourire. Toujours, tu avais toujours un sourire. Et je pense que une ou deux fois, elle t'a pas vu sourire et ça l'a inquiétée.
Ah,
Parce que pour
pour
elle,
plus
tu
être
avais toujours le sourire.
mais
Non, non, c'est vrai.
ok, c'est vrai que ça c'est peut-être une chance, hein. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est vrai que j'adore sourire, rire pour tout et n'importe quoi, mais pas comme un imbécile, hein. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je considère que enfin, moi, c'est une thérapie, hein, de sourire, hein. Tu sais, de pouvoir sourire comme ça, tu vois, là, je te regarde, je parle, j'ai envie de sourire, donc je souris, c'est. Moi, c'est quelque chose de naturel.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ton. Bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais toi qui as des enfants, et le premier truc que j'ai remarqué quand j'ai vu ton fils, il sourit comme son papa. C'est le même,
Mais
version
ma fille aussi.
miniature.
Mais moi, des fois, il m'énerve le matin. Parce que le matin, quand tu es en train de courir, etc. Alors, le rituel, c'est. Alors, ils se mettent tous à chanter dans la maison. Alors, tout le monde est pressé, il faut qu'on y aille, vous êtes en retard. Ils chantent, ils dansent, ils rigolent, ils se font des blagues, tout ça avant d'aller à l'école. C'est très bien, mais c'est vrai que quand tu es dans le rush, un peu ça te. Et donc, moi, ça m'énerve. Et après, une fois, je m'arrête, je me dis, mais en fait, pourquoi tu t'énerves? Tu es comme ça quand même, c'est comme ça que tu étais. Donc, du coup, après, je rigole, et puis on rigole, tout le monde rigole, et puis voilà. C'est comme ça. Je suis bien fier de leur avoir. Filer ça, en fait, donner ce côté-là.
Non, complètement. Donc là, non, la bienveillance, c'est
Oui,
important.
c'est important, oui.
Donc finalement, il y a cette expérience, cette rupture professionnelle, qui finalement est peut-être même une rupture plus importante que ça dans ta vie, puisque tu vas tourner la page et commencer un autre chapitre.
C'est ça, le chapitre le chapitre de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est très bien, hein, okay, voilà, c'est très bien, il faut avoir du courage, il faut être aussi entouré, il faut ça, je dis que la famille est importante. Moi, quand je me suis lancé, j'avais une copine à l'époque qui est aujourd'hui mon épouse, qui m'a encouragé, tout simplement, hein, avec des mots simples, etc. Et donc j'y suis allé sans aucune crainte. Je me suis fait aider par un ou deux amis qui avaient déjà cette expérience-là. Et puis ça allait tout seul. Et
Moi, je sais
surtout.
qu'à l'époque, ça m'avait épaté, parce que je me souviens, moi, j'étais déjà en Irlande.
Mais j'ai pas fini. Il faut que je dise, j'ai pas fini, Liliane. Attends. Donc, il m'avait aidé, etc. Et ce dont j'avais besoin à l'époque, c'est que j'avais besoin d'un. Bon, j'avais le. Comment dire, l'accord. Voilà, c'est pas l'accord, mais j'avais le soutien de ma copine à l'époque, qui est mon épouse aujourd'hui. J'avais quelques personnes que je connaissais qui étaient déjà dans le milieu, donc ça a aidé. Et j'avais à un moment besoin d'un peu de finance, parce que quand on se lance, on crée une entreprise, il faut un peu de sous. Donc, j'avais lancé une petite appel de fonds. À mon entourage, etc. Et je me souviens très bien que l'une des personnes, il y a eu une, deux, j'ai demandé à quatre personnes de l'aide financière, Et tu faisais partie de ces personnes. Et dès que je me souviens exactement que dès que je te l'ai dit, il s'est pas passé 3 secondes, tu m'as dit, OK, y a pas de souci, combien tu veux. Et puis tu m'as dit, voilà, sœur, je peux te filer tant. De façon très, très, très spontanée. Et ça m'a touché, ça m'a marqué. Puisqu'aujourd'hui, je l'ai toujours en tête, je me rappelle toujours de ce jour-là. C'est rien pour toi, mais pour moi, c'est quand même. Voilà. Et voilà, donc après, j'ai remis les sous qu'il fallait, et puis je me suis lancé. Et puis j'ai pu m'exprimer réellement en tant que manager. M'exprimer réellement en tant que manager. Voilà.
Juste une parenthèse, donc moi à l'époque en fait j'avais trouvé ça épatant parce que bon aujourd'hui avec l'expérience que j'ai etc. Oui aujourd'hui ça me surprendrait moins tu vois mais à l'époque c'était il y a combien d'années? 12, 13 ans?
C'était il y a 14 ans, à peu
Ouais,
près.
moi je sais qu'à l'époque, j'avais pas les épaules. Mais quand tu m'as dit ça, je me suis dit waouh,
Ouais.
énorme. Il faut, en tout cas, c'est pas moi qui vais l'empêcher. Si je peux faire un truc qui peut l'aider, ce serait dommage qu'il le fasse pas parce qu'il lui manque quelque chose. Moi, en tout cas, je peux donner ce que je peux donner, mais je donnerai. Enfin, mais c'est même pas un don, c'était un prêt, parce qu'après, tu m'as remboursé. Mais comment dire? C'était quand même. Pour employer le terme, le vrai terme qui me vient réellement, sans me filtrer, comme tu sais, j'aime pas les filtres, moi je trouvais que tu avais été couillu ce jour-là de te lancer dans un truc. C'était une franchise de mémoire.
Passer une franchise
Et c'est pas évident, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de.
énormément
C'est...
énormément énormément aujourd'hui bon, j'ai fait des franchises hein, mais aujourd'hui
T'en as eu combien des franchises?
alors j'en ai eu, on va dire que j'en ai eu pendant 14 ans
Mais t'en as eu
mais
combien?
j'en ai eu j'ai fait deux fran j'ai fait une j'ai fait trois franchises en fait au total,
Ouais, il me semblait trois.
trois franchises. Et c'est très dur, le monde de la franchise, c'est extrêmement dur, extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé d'autres boîtes aujourd'hui qui ne sont pas du tout franchisées. Voilà. Mais la franchise, ça reste, disons qu'il faut, quand on fait de la franchise, il faut se donner des objectifs clairs et un timing. Parce qu'on ne reste pas dans une franchise à vitam aeternam. Impossible. Non, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est impossible. On se donne
Quoi?
des objectifs. Pourquoi? Parce que c'est tellement contraignant quand vous devez redonner aux franchiseurs 14-15% du chiffre d'affaires. Déjà, il faut sortir ces 15% de marge, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Mais en plus, quoi qu'arrive, il faut donner ces 15% aux franchiseurs, sans oublier les autres frais que le franchiseur prend à gauche, à droite, etc. Sans oublier la pression fiscale qu'on a ici, les taxes
Donc
et
toi,
les.
t'étais en France, faut le préciser, bon.
C'est en France.
Ouais.
Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut se donner des objectifs. Il faut se donner des objectifs, se dire pourquoi est-ce que je fais de la franchise? Je fais de la franchise, OK, mais il faut avoir un projet derrière. Parce que la franchise n'est pas un projet.
Alors explique quand tu dis qu'il faut avoir un projet derrière, qu'est-ce que tu
Ben,
entends par
c'est-à-dire
là?
que aujourd'hui, tu as un projet derrière, c'est-à-dire que se dire j'ai un projet X, comment faire pour y arriver? On peut se servir de la franchise pour y arriver. De façon intelligente, je ne vais pas développer ça, mais on peut se servir de la franchise pour y arriver. Je vais donner un exemple simple. Quand on est par exemple, dans de la location de voiture, on se dit, moi, j'ai envie de créer une boîte qui va louer, vendre, acheter des voitures, machin, etc., etc. Mais au départ, pour faire ça, il faut beaucoup d'argent. On a un peu cet argent. Parce que quand on veut louer des voitures, ça veut dire qu'il faut aller vers des concessionnaires, des concessionnaires, vers des fabricants de voitures, etc. Et puis leur dire, bon, cette année, j'ai besoin de 50 voitures. Sauf que 50 voitures, les acheter, c'est bien sûr pas possible, parce que 50 voitures, ça fait 2 millions d'euros, hein, à peu près. Si on demande de les passer, de les louer, OK, mais ils demandent des garanties par véhicule. Donc, on se retrouve à devoir mettre sur la table des centaines de milliers d'euros en caution. Enfin, donc, c'est compliqué. Donc, la franchise peut permettre de faire ça, c'est-à-dire que d'avoir la structure franchisée qui va alimenter sa structure. Enfin, c'est par des montages, etc. Mais
Ok, je vois.
voilà. Donc, c'est de servir de la franchise pour un projet. Mais dire que la franchise est un projet, pour moi, cette franchise n'est pas un projet. C'est un moyen pour arriver à autre chose. Voilà. Et ça, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Et
Ok, donc imagine, quelqu'un veut se lancer pour la première fois, d'accord? Dans un secteur d'activité, dans un domaine précis. Aujourd'hui, toi, avec ton recul et ton expérience, tu ne l'as pas fait une fois, tu ne l'as pas fait deux fois, mais tu l'as fait trois fois. Avec ton expérience, aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, va, commence par la franchise ou tu dis non, monte ton truc directement?
Après, tout dépend du secteur d'activité aussi, c'est important. Tout dépend du secteur d'activité. Mais les secteurs d'activité qui sont difficiles à pénétrer, qui sont difficiles à pénétrer parce que ça demande de gros investissements de départ, ça demande de grosses garanties,
Comme
etc. Et
quel
là,
secteur?
ça peut être dans l'automobile, ça peut être secteur de la grande distribution, donc tout ce qui est donc la grande distribution, hein, la grande distribution générale. Tout, en fait, les secteurs, toute structure qui nécessite de gros apports financiers. La franchise peut être une solution pour développer son business. Mais ça, bien sûr, c'est des trucs qu'on ne dit pas.
Non, mais j'ai compris. Maintenant, quels sont les secteurs d'activité, par exemple? Tu peux donner un ou deux exemples où typiquement tu fais, ben non, pas besoin de faire une franchise, lance-toi directement.
En général, tout ce qui est service à la personne, service aux entreprises, on n'a pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. Parce que d'abord, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de sous pour se lancer. Et ensuite, aujourd'hui, les entreprises, quand on propose un service à une entreprise, elles regardent le coût. Et à la limite, l'entreprise peut te tester pendant un laps de temps court. Et puis après, faire un contrat. Donc, on n'a pas besoin. C'est surtout dans le service. Dans le service, on n'a pas besoin de se lancer dans les franchises. Je pense que ce n'est pas nécessaire.
Ok, on fait un off. Ouais, donc non, une belle expérience. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, donc oui, effectivement, après, comment dire, décider d'aider un ami à se lancer, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait pour tous les amis.
Bien sûr.
Je pense que tu es le seul pour qui j'aurais pu faire ça. Donc, je t'envoie les fleurs que tu mérites, comme on dit. Finalement, avec tout ça, aujourd'hui, parce qu'au début, tu as commencé, ben, comme tout le monde, tu es passé par les bancs de l'université, tu as eu le premier job. Les premiers jobs, on n'a pas été super bien payés. Quand on était sur les bancs de l'école, on nous disait, oui, tu verras, quand tu auras un master, tu vas gagner, machin et tout. Mais en fait, ce n'était pas vrai. Donc, on a commencé tous et toutes, en tout cas pour ceux qui vivent en Europe, ou en Amérique du Nord même, souvent on ne commence pas avec les salaires dont on nous avait parlé.
Bien
Donc
sûr.
ça rend un peu plus humble. Alors, moi j'ai commencé avec les 1500, 1700 euros.
Ça, c'était bien.
Sauf qu'après j'ai eu des taxes parce qu'en Irlande, les taxes sont pas... À l'époque, attends. Non, les taxes sont prises à la source, mais quand tu arrives, parce que t'as jamais payé de taxes, j'ai eu un petit redressement au mois de janvier. Après, j'ai dit, oh là là, j'ai que ça pour vivre. Donc,
Moi, j'ai commencé dans un peu moins, quoi. J'ai commencé, je crois, à 1002. Je me souviens très bien parce que c'était une galère. J'avais 1002, j'avais 450 euros de loyer, j'avais une bagnole, fait que j'avais besoin de ma bagnole pour aller au boulot parce que j'étais en Bretagne. En fait, à chaque fin de mois, je finissais à moins 200 euros, quoi. Et après, j'ai fait des choses. Bon, j'ai fait des choix pour ne plus être à ces moins 200 euros. Donc, voilà, des choix sur ma vie personnelle, sur ma vie privée, où je faisais du covoiturage entre Paris et Rennes, parce qu'à l'époque, ma copine, qui est mon épouse aujourd'hui, hein, ça revient souvent, mais mon épouse aujourd'hui était à Paris, et moi j'étais à Rennes, et je faisais l'aller-retour Paris-Rennes avec ma voiture, et je faisais du covoiturage. Alors, le covoiturage me permettait de payer le péage et l'essence.
C'est
Voilà.
bien. Mais c'est
Donc,
smart.
bien sûr, c'est smart. Il faut trouver des solutions. Quand tu as des problèmes, il faut trouver des solutions.
Il n'y a que des
Et
solutions, il n'y a pas de problème en
n'y a
réalité.
pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, on trouve des solutions. Donc, ça me permettait de venir à Paris régulièrement et de la voir, de passer du week-end tranquillement. Et voilà.
Et ça valait le coup en plus, finalement.
Complètement, complètement. À plus d'un titre. À plus d'un titre.
Ouais, un bisou à Ouda quand même.
Oui,
On parle
complètement.
d'elle, elle doit avoir les oreilles qui sifflent. Mais ok. Et donc finalement, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport au travail? Parce que bon, Je ne vais pas entrer dans les détails, mais moi je sais, tu as bossé, 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 même dans des situations où dans la vie personnelle, bon, tu ne m'en voudras pas de préciser, même quand je me souviens, ton père est décédé, ça m'avait choqué. J'étais à Paris et tout, et je crois que tu avais carrément du sang qui était sorti des oreilles ou du nez, je ne sais plus. Mais tu
Exactement.
étais dans un niveau de stress. Et Dieu seul sait que t'es pas quelqu'un, tu te plains pas, mais tu étais à un niveau de stress intense. La vie parisienne, le boulot, la pression, il y a toujours des choses au boulot. Après, il faut quand même le dire, quand tu es black en France,
Ben.
que tu bosses, que tu es employé, la vie n'est pas rose. Tu fais quand
Exactement.
même, tu subis des préjugés, des discriminations tout le temps. Il faut dire la vérité. Alors maintenant, la diversité, c'est à la mode. Mais je veux dire, maintenant, avoir un ami black, c'est à la mode, mais ça n'a pas toujours été à la mode, hein.
Oh, bien sûr, ça peut sortir la main. Moi, j'ai senti. Enfin, moi, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en France, alors, il faut savoir que moi, je n'étais pas dépaysé quand je venais en France parce que j'ai eu la chance, comme toi, très vite, on voyageait, on venait en France, on allait en Côte d'Ivoire, on allait au Bénin, enfin, chaque année. Moi, je n'ai pas été dépaysé par ça. Mais moi, j'ai appris le racisme. J'ai découvert le racisme. J'avais 18 ans passés. Voilà, 18 ans passés. Où en fait on te dit des mots que tu n'as jamais entendu de ta vie, où sur le plan professionnel, on te dit, je me souviens quand je suis allé en Bretagne travailler, on m'appelait l'intellectuel parce que j'étais le plus qualifié de l'entreprise. J'ai rien compris, et ça agaçait les gens. Et je recevais des remarques tous les jours de mes collègues, collègues, hein, mes collaborateurs également. Quand je dis collègues, c'est ceux qui étaient du même niveau que moi, et de mes collaborateurs, ceux qui étaient en dessous également. Je recevais des trucs, mais des trucs mais violents, hein, mais violentissimes. Et je gardais toujours le sourire parce que je me disais, mon combat, il n'est pas là. Mon combat n'était pas là. C'est
Ouais, mais
ça.
faut quand même faire preuve d'une force pour ne pas réagir.
Bien sûr. C'est parce que j'avais un objectif, il était clair. Je savais que c'était juste un passage. Donc, je n'allais pas faire racine chez eux. Donc, je prenais, j'écoutais, je disais rien, je répondais même pas. Je marquais de la différence à ce qu'ils disaient. Et à un
Non, mais
moment, ils ont...
c'est lourd, hein, c'est lourd, parce que moi je vois même dans mon cadre professionnel, bossant dans la tech, je me souviens d'un voyage où l'entreprise pour laquelle je bossais nous envoie aux US, à Philadelphie, faire un training. Et donc moi, quand on me demande d'où je viens, vu que je parle anglais avec quand même un accent français, donc les gens disent « Oh, you're French, t'es française et tout ». Je dis « Non, je ne suis pas française, je suis gabonaise ». Gabon? Je dis « Afrique, je viens d'Afrique, Afrique centrale ». Et bien là, je me souviens, ce training, Serge, c'était horrible. Les Américains, ils aiment vous mettre en groupe pour faire. Donc, on avait des simulations de vente, des trucs à faire. On était en groupe et on devait préparer. Donc, tous les jours, on devait présenter devant 100 personnes. En fait, c'était comme une grosse université, tous les vendeurs qui avaient été embauchés cette année-là. Donc, c'était comme une grande messe à l'américaine. Et donc, on devait travailler le soir après la formation pour préparer des choses pour le lendemain. Et comme j'avais dit que je venais d'Afrique, il y avait un mec, quand je parlais, je donnais des idées, il m'ignorait en fait. C'est comme si j'existais. Il m'ignorait. Il m'ignorait. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je disais pour lui, c'était pas intéressant. Et j'avais eu la même chose quand j'étais en master à Montréal, dans un cours aussi. Et heureusement que là, il y avait une personne, une amie à moi. Sandrine Martin, si elle m'écoute, elle s'en souviendra peut-être. Elle m'avait rassurée, elle m'avait dit, mais attends, le travail que tu fais, ça vaut un A+. Et on avait eu A+, au projet. Mais le mec, il m'avait fait douter de moi parce qu'en fait, c'était jamais bien. C'était pareil. On m'avait demandé d'où je venais. J'avais dit, t'es française? J'avais dit, non, je suis gabonaise. Et quand les gens savent, certaines personnes savent d'où tu viens, pour eux, bah, c'est l'Afrique, hein. T'es forcément bête, t'es forcément pas intelligent, t'as pas de niveau. Tu viens d'Afrique. Donc.
Ben, je me souviens aussi d'un épisode qui m'avait. C'était le premier épisode qui m'avait marqué dans ma vie, où je me suis dit, mais pourquoi? En fait, j'essaie de trouver une explication. J'avais 17 ans. J'étais en terminale. On avait fait un devoir de maths, qui était ma matière, hein. Il rend les résultats. Et je prends ma copie. Entre-temps, on avait fait la correction. Je prends ma copie, je regarde ma copie. Je cherche mes erreurs, je n'en trouve pas. Et je vois comme note 15. Et je me souviens de ce jour-là, mais c'est très clair. Et je vais voir le prof, je dis, mais pourquoi vous m'avez mis 15? Entre-temps, je suis parti voir la copie d'une collègue qui s'appelle. Non, j'avais 18 ans, pardon. Qui s'appelle Virginie de Buchère. Non, c'est Virginie de Buchère? Non, Perron. Perron. Perron, elle s'appelait Perron. Et j'ai dit, mais regardez sa copine. Elle a fait des fautes partout, partout, partout. Là, 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 là. Il a mis 18 et demi. Moi, je n'ai aucune faute sur ma copie. C'est clair. Enfin, c'est des mathématiques. Hein. C'est pas. Mais pourquoi vous me mettez 15? Alors, ce qu'il m'a répondu, et là, ça m'a. J'ai. Il me dit, c'est parce que je sais que tu peux faire mieux. J'ai dit, mais mieux de quoi? Je n'ai pas fait
Ouais,
d'erreur.
ça, c'est une réponse malhonnête, tout simplement.
Je me souviens de ce jour-là et ça m'avait choqué. Et puis, bon, en même temps, c'était l'année. Alors, il y a un truc qui m'a. Je vais un peu dans tous les sens, mais ça me rappelle aussi qu'il y a quelque chose qui m'avait. Tu m'as demandé qu'est-ce qui m'avait marqué? Qu'est-ce qui m'avait marqué le plus dans ma vie? Il y a une chose qui m'a marqué dans ma vie, c'est ma première année de terminale, parce que j'ai fait deux terminales.
Je me souviens.
Yes, Blaise Pascal. J'étais parmi les deux, trois premiers de la classe. Ma première terminale, j'étais parmi les deux, trois premiers de la classe. J'avais 14 de moyenne. Il n'y avait pas de hasard. Le jour des résultats du bac, je vais voir le résultat. Je cherche mon nom, je ne le trouve pas. Je dis, il y a forcément une erreur. Et j'ai vu mon nom dans ceux ceux qui avaient échoué d'office, en fait. C'est-à-dire ceux qui avaient moins de 8 de moyenne. Moins de 8 de moyenne au bac. Et mon nom était bien écrit. Et je dis, mais j'ai jamais eu de toute ma vie, de toute ma scolarité. Et je me souviens, je suis rentré chez moi, je dis à mes parents, j'ai pas le bac. Ils m'ont dit, comment ça, t'as pas le bac? Je dis, ben non, j'ai pas le bac. Mon père a dit, mais il y a quelque chose qui va pas là. Comment c'est? Il regardait, il a regardé, il m'a dit, mais bulletin, il m'a dit, mais il s'est passé quoi, Serge? Je dis, ben j'en sais rien, mais pour moi, il s'est rien passé. Enfin, je suis parti faire mes cours, enfin, passer les examens, comme je fais mes contrôles, etc., machin, etc., je comprends pas. Et on a demandé à voir mes copies. Ben, j'ai pas pu voir mes copies. Et je me suis rendu compte après, parce que quand ça s'est passé, moi j'étais là, tellement avec mon petit, j'avais un appareil photo, j'ai plein de photos du truc pour dire, ben, de toute façon, je suis là. Et en fait, mon numéro de candidat avait été attribué à quelqu'un d'autre. Mon numéro de candidat avait été attribué à quelqu'un d'autre. Quelqu'un
Il n'a
d'autre l'a
jamais
eu.
dit ça.
Non, mais tu sais, c'est des trucs. Et je sais qui c'est. J'ai gardé. Ça, c'est la première fois que j'en parle. Mais j'ai gardé. Parce que je me suis dit, ben, écoute, si ça a été fait comme ça, il y a une raison. Tu sais, moi, je suis.
Mais c'est très
Mais.
spécial. Tu veux dire que dans un système,
Oui,
c'est un système français?
bien sûr. Mais système français, c'est un système français local. Hein, d'accord? Tout est fait au Gabon. On dépendait de l'académie de Bordeaux.
De Bordeaux,
Et
ouais.
fait localement. Les copines n'allaient pas à Bordeaux et revenaient.
Non, c'était fait localement, ouais.
Tout est fait localement. Et mon numéro avait été attribué à quelqu'un. Et je sais qui est cette personne. Je connais son nom. Et sur le coup, je ne savais pas parce que ça n'a pas été immédiat, en fait, immédiat. Donc, je me suis rendu compte de ça 3 mois après. On était en septembre, à la rentrée, etc. Bon, et puis j'ai vu ça, j'ai appelé mon père, je dis, papa, regarde. J'ai montré la photo du truc, je dis, toi, ça, c'est pas mon numéro. Voici mon numéro. Et il m'a dit, mais on va porter plainte et machin. Moi, je dis, papa, tu as porté plainte contre l'administration française? Il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne se passera rien, ça va être que du. Et puis bon, il m'a dit, ben écoute, c'est pas grave.
Bah, du
Et
coup,
ça m'a.
l'année d'après, tu as eu le bac avec mention, alors.
J'allais pas à l'école.
Non?
Moi, j'ai eu 15, 15 ou 17 en maths, trucs, des bonnes notes en physique, en tout ça, mais j'allais quasiment pas. Et quand j'étais absent, je prenais le cahier, je signais moi-même. Monsieur le bédisseur, je signais. Il s'est énervé le directeur. Et j'ai dit au directeur, et il a très vite compris, j'ai dit au directeur, quand vous avez un élève comme moi qui est parmi les premiers de sa classe et qui est bizarrement n'a pas eu son bac, et qu'on se rend compte après qu'il y a des trucs bizarres avec son numéro de machin, je pense que. Il avait dit ça comme ça, je dis, je pense que voilà, je dis donc, je suis absent, je signe, je suis majeur, j'avais 18 ans, je dis, signé, et puis c'est tout. Personne ne peut me blâmer pour ça. Donc voilà, donc c'est passé comme ça, donc j'allais en cours quand je voulais. J'étais délégué de classe, je venais foutre un peu ma mère dans le conseil de classe. Enfin, ma mère, non, c'est-à-dire que quand les trucs n'allaient pas, je n'allais pas partir de mille chemins, j'avais le droit au but. Quand les gens me
Bon, t'étais un
disaient,
peu énervé cette année-là, quoi.
j'étais un peu énervé, donc j'allais, tu vois, mais c'était une année où il n'y avait pas. Encore une fois, cette année, il n'y avait pas de challenge pour moi. Je sais pas. Mais c'est. Et la personne qui a eu mes notes, je sais qui c'est. Il a une belle carrière, d'ailleurs.
Et cette personne sait que tu sais?
Je ne pense même pas qu'elle sache. Elle-même, elle ne le sait même pas. Parce que est-ce que toi, tu as regardé ton numéro de candidat?
Non.
Tu regardes juste ton nom, tu vois ton nom, tu t'en fous du reste.
Non, c'est clair.
Du reste.
Mais
Et
moi,
moi,
à
je.
l'époque, ça ne m'aurait pas dérangé de ne pas avoir eu le bac, hein. Je serais restée une année de plus au Gabon, j'aurais été contente à l'époque, hein.
Ouais, ben voilà, ben moi, voilà. Mais moi, le problème, c'est que tous mes copains étaient partis. Tous
Ouais.
mes, avec qui je sortais, tout le monde était parti. Et donc, je me retrouvais un peu,
Seul.
un peu seul. Donc, voilà.
Qu'est-ce que tu as appris? Parce que c'est une expérience violente. Après, je te crois sur parole, je ne mets pas en doute ce que tu viens d'expliquer. Qu'est-ce que ça t'a appris? Je pense résilience, forcément, mais qu'est-ce que ça t'a appris cette expérience?
Bien sûr, et puis ça, tu sais, je pense, c'est une philosophie en fait, c'est qu'en fait, on n'est rien. On a beau être ce que l'on veut, mais en fait, on ne représente rien du tout et que des choses peuvent se passer dans la vie.
Tu
Tu peux
contrôles
avoir
pas.
raison, tu peux avoir raison et te retrouver comme étant la personne qui a tort. Tu peux être très intelligent et être le dernier. Tu peux être brillant, faire de brillantes études. Et te retrouver à la rue. Enfin, il n'y a rien n'est acquis et il y a les mystères de la vie qui font que, voilà. Des gens appellent ça le karma, d'autres appellent ça la chance, d'autres appellent ça ce qu'on fait. Mais voilà, on n'est pas maître de notre destin comme beaucoup de gens le pensent.
Non, 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 on l'est clairement pas.
Voilà, il faut faire le minimum, il faut faire ce qu'on doit faire pour, mais c'est pas en faisant ce qu'on doit faire, on obtient un résultat escompté. C'est pas une évidence.
Non. Ok, j'ai un petit jeu à te proposer. En fait, je vais commencer des phrases.
Oui.
Je laisse finir la phrase.
Il
Je vais un peu dans tous les sens, hein.
n'y a pas de souci, l'essentiel, c'est qu'on discute.
Ok. Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est...
C'est un moyen de d'exprimer mon moi, comme je disais tout à l'heure, et mes valeurs intrinsèques, voilà, à travers mon management.
L'amour, pour moi, c'est...
Ah, c'est mon équilibre, ma source de jouvence, mon énergie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
L'Afrique, pour moi, c'est...
Alors, l'Afrique, c'est mon continent d'origine. Une grande source d'inspiration et c'est de place, this is the place to be.
L'Europe, pour moi, c'est...
Ma première terre d'accueil, puisque je suis né à Paris, parce que malgré tout, il faut dire que l'Europe, je parle surtout de la France en tout cas, que je connais bien, a accueilli beaucoup de personnes qui ont des difficultés politiques, elle a accueilli des gens, elle les a secourus, etc. Ça, il ne faut pas l'oublier, même si aujourd'hui, ce qu'on dit, mais la France a vraiment été ça et elle l'est toujours. Donc l'Europe demeure pour moi une terre d'accueil. Voilà. Une terre d'accueil, mais j'ai précisé, des demeures, une terre où les gens sont accueillants, mine de rien, mais ne pas confondre avec les dirigeants, qui
Ouais.
ont des discours très politiciens et qui...
Complètement. En fait, il faut être beaucoup plus subtil que ça. Et souvent,
Exactement.
dans le stress, les gens ne sont pas subtils.
Exactement.
On manque de
Exactement.
discernement.
Moi,
Ouais.
dans ma vie, j'ai eu, pour expliquer, enfin, pour matérialiser ce que je viens de dire là, j'ai vécu 2 ans, 2, 3 ans, 3 ans en Bretagne, dans un petit bourg qui s'appelle Montfort-sur-Meu, où j'ai assisté à quelque chose d'effroyable parce que j'ai assisté à une sorte de rafle. C'est en fait la police qui a embarqué tous les Noirs qui habitaient dans ce bourg. Moi, j'étais pas là, heureusement pour moi, j'étais pas là. Ils ont embarqué tous les Noirs parce qu'il y avait eu une dénonciation comme quoi la plupart étaient sans papier. Quand le lendemain matin, la ville s'est réveillée, tout le monde parlait de cela, et 2 jours après, sur les 6 000 habitants de ce petit bourg, Montfort-sur-Meu, qui est à 30 km de Rennes, il y a eu 2 000 personnes qui étaient dans les rues, dans ce petit bourg, pour dénoncer cela. Un bourg de 6 000 personnes, il y avait 2 000 personnes qui étaient dans la rue. Et en fait,
Ils en ont
le
parlé à la télé ou
reporter,
pas?
bien sûr, j'ai tout un classeur avec les articles de presse, etc. Et la ville était tellement petite qu'en fait, le cortège est parti, qui n'était pas totalement parti, qu'il arrivait déjà, tellement il y avait de personnes, en faisant le tour de la ville, hein, enfin le tour du centre-ville.
D'accord.
Voilà. Donc c'est ça, c'est pour dire que oui, terre d'accueil, les gens le sont foncièrement bons. Et les gens qui ne le sont pas, ils représentent une minorité.
C'est ceux qui parlent le plus, qui crient le plus.
C'est ça.
Quelles sont tes plus grandes joies? Tes trois plus grandes joies?
Ah, mes 3 plus grandes joies. Alors l'une de mes plus grandes joies, une plus grande fierté, c'est quand même mon mariage. Parce que déjà, j'épousais la personne que j'avais choisie, avec qui je voulais faire ma vie, avec qui je voulais avoir des enfants, etc. Mais aussi parce que c'est un moment où j'ai pu réunir toute ma famille. Pas que la famille de sang, mais aussi la famille de cœur. Il y a certains qui n'ont pas pu être là, qui n'ont pas pu être là. J'excuse à 100%, sauf peut-être une personne. Mais voilà, j'ai pu réunir toute ma famille et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Même des gens qui ne s'entendaient pas entre eux, qui avaient des petites discordes, ils sont venus, ils sont tous venus. Et on a pris
Donc
une
ça,
bouffée.
c'est une joie et les deux autres?
Ça, c'est la première. La deuxième joie. Tout. Je cherche parce qu'il y a tellement de choses dans une vie. La naissance de mes enfants, c'était une très grande joie pour moi. Une très, 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 très grande joie.
Papa poule, c'est
J'en
clair.
ai eu deux. Donc j'ai eu une double joie à 4 ans d'écart. Mais la naissance. Et la troisième, c'est sur le plan professionnel où j'ai eu une joie immense le jour où je me suis rendu compte, l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, où j'avais 90% de mes collaborateurs qui ont fait grève pour moi, qui ont risqué leur emploi pour moi. Voilà,
Ce
60
qui est
emplois.
exceptionnel parce que
Ah oui.
99% des gens ne le font pas.
Ils ne le font pas. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques articles dans Le Parisien, dans Le Figaro. On a même parlé de cette histoire au Japon, au Japon. Pour te dire.
Wow.
Ah oui, c'était sympa. Mais voilà, ça c'est mes 3 plus grandes joies. Alors,
Et une question que j'aime beaucoup et que
Oui.
j'utilise même dans mes séances de coaching, je l'ai utilisée hier d'ailleurs avec un jeune homme de 19 ans. Ok, si aujourd'hui tu pouvais parler au Serge qui avait 27 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Qu'est-ce que je dirais? Simplement, fonce et crois en toi à 200%. La vie est devant toi. Voilà, tout simplement.
Pourquoi cette phrase en particulier?
Parce que fonce, parce que quand on est, enfin moi je suis quelqu'un d'assez prudent à la base, mais en fait peut-être un peu trop prudent. Et je pense que et bon, des fois j'étais un peu, je me suis un peu ralenti, je me suis un peu limité par rapport à à cette aversion un peu pour le risque finalement, enfin, une sorte d'une petite aversion pour le risque qui m'a un peu freiné dans certaines.
Et tu penses qu'elle nous vient d'où? Parce que moi, j'ai souffert de la même chose. J'en souffre encore, à mon avis, un peu. D'où ça nous vient, ça, ce côté-là?
D'où ça nous vient? Est-ce que c'est pas de l'éducation, un peu? Est-ce que c'est pas de l'éducation? Est-ce que c'est pas une grosse proximité avec nos mamans, peut-être? En tout cas, beaucoup d'échanges avec nos mamans, parce que une femme sans enfant, c'est une chose, mais une femme avec mariée avec des enfants, elle a une autre façon de penser. Et je pense qu'il y a naturellement une aversion pour le risque, c'est-à-dire qu'elle pense à ses enfants, elle pense à si jamais ça ne se passe pas, comment ça se passe. Donc il y a une grosse réflexion. Je pense que moi, pour ma part, je pense que c'est lié à ça. Pourtant,
Ouais.
ma mère était quelqu'un de. Elle a entrepris plein de choses, elle a fait plein de choses dans sa vie, etc. Mais je pense que ses craintes, en fait, je suis comme. Les enfants, c'est comme des éponges, hein. Les craintes aussi, on les prend.
Ah, complètement. C'est clair. Quelles sont tes passions? Parce que finalement, t'es vachement ancré. Enfin, je te connais assez bien, même très bien. Moi, ce que je remarque, c'est la personne, le jeune homme et finalement homme, maintenant homme mature, hein, désolé, qui a une vie qui a été vraiment autour du travail, du travail, du travail, la famille, c'est vrai, mais le travail. Mais dans tout ça, les passions, il y en a? Elles sont où?
Alors, c'est vrai que je ne me suis jamais posé et réalisé mes passions parce que pour moi, il y avait d'autres priorités que mes passions, alors que la vie, une vie complète et équilibrée, la passion fait partie entièrement de la vie, de ne pas faire des choses qui nous plaisent, pour lesquelles on ne voit pas le temps passer, etc., etc. Alors, l'une de mes passions que j'ai toujours eue, qui est bon, c'est les voyages. J'adore les. Et c'est une passion que mon épouse a également et qu'on est en train d'inculquer aussi aux enfants, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais
À raison, forcément.
à raison que Dieu leur donne les moyens, nous donne les moyens de continuer à vivre cette passion pleinement et à découvrir des cultures différentes de la nôtre, des modes de vie, des endroits magnifiques sur Terre. Voilà. Donc ça, c'est une passion qu'on a tous chez moi.
Ouais, super. Donc oui, donc je pense qu'il y a un dernier aspect qui est assez intéressant, c'est vu ton expérience et ta personnalité, comment dire? Si je nous compare, sans entrer dans les détails, c'est que je dirais que quand on était plus jeune, toi, tu avais déjà une longueur d'avance sur moi par rapport à ta maturité. Je dirais émotionnel, c'est-à-dire que, et en termes de communication aussi, c'est-à-dire que moi je pensais quelque chose et je le disais, et c'était tout. Et pour moi c'était bien, c'était comme ça, c'était ma force. Alors pas du tout, c'était une grosse faiblesse. Et toi, t'avais plus d'une longueur d'avance sur moi là-dessus. Et donc, avec du recul, vu les situations que tu as traversées professionnelles quand tu étais employé, qu'ensuite. Tu l'es toujours employeur. Et même dans ta vie personnelle extrêmement riche, familiale, au sens nucléaire du terme, mais aussi on a de grandes familles, n'est-ce pas?
Oui.
Quels sont les soft skills dont tu penses les jeunes Quels sont les soft skills qu'il faut qu'on essaie de développer, selon toi? Et même pour les plus vieux, finalement, qui pourraient se remettre en question.
Avec ma petite expérience et mon âme de personne, je pense qu'avant de faire quelque chose, de dire quelque chose, quelle que soit la circonstance, Je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de réfléchir. Surtout, toute chose n'est pas bonne à dire. Ce n'est pas tout ce qu'on pense que l'on dit. Ce n'est pas tout ce que l'on fait que l'on dit. Il faut prendre le temps de réfléchir. C'est très important. Et surtout, on ne dit pas tout. Ce n'est pas parce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'à l'instant T, on pense du mal de quelqu'un, parce qu'on pense qu'il faut s'exprimer et lui dire tout de suite. Non. Je pense qu'il faut prendre le temps, prendre le recul, de réfléchir, de se poser des questions. Une fois, surtout quand on est dans le vif du sujet, qu'on est dans l'émotionnel, etc., il faut se calmer. Et puis, voilà. Je pense que c'est très important. Ensuite, à développer. Il faut beaucoup de tolérance, que ce soit que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Il faut beaucoup de tolérance. La vie de couple, c'est une vie de tolérance, une vie de. Il faut faire des concessions. Il n'y a pas
M'en
un
parle
jour.
pas, m'en parle pas.
Voilà. Il faut faire des tolérances et concessions. C'est important. Parce que quand on n'est pas tolérant et qu'on n'arrive pas à faire des concessions, bah, la vie est compliquée. Parce qu'on n'aura jamais en face de soi, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, quelqu'un qui soit exactement comme on veut qu'il soit. Ça n'existe pas.
Amen.
Et puis j'ai envie de dire de l'humilité. On a une boîte aujourd'hui qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bravo, c'est bien. On n'est pas à l'abri que l'année suivante, qu'il se passe quelque chose. Qu'il y ait un événement international qui fasse que ce secteur passe en crise. Pour ceux qui ont des entreprises, par exemple, je sais pas moi, dans le service, eux, ils doivent bien comprendre cette nuance. C'est-à-dire que tu vends un service. Donc, parmi tes clients, tu as des clients peut-être qui sont ce qu'on appelle des mensuels, des clients, des clients réguliers. On va dire des clients réguliers qui ont un contrat sur 2 ans. Donc, ça, c'est la base qui te permet de faire tourner ta ton entreprise. Mais tu as la plus grande partie, donc les 80% restants, ce sont des clients ponctuels. Et en fait, quand on réfléchit bien, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas parce que tu as fait 100 millions cette année que la prochaine tu feras 50 millions. Voilà. Parce que les clients, c'est des one-shots. Il faut aller toujours chercher ce one-shot de façon continue chaque mois, chaque jour, chaque année, etc. Donc, l'humilité.
Donc, humilité, gestion des émotions, on va dire, pas être impulsif.
Ne pas être impulsif, réfléchir à de parler, toute chose n'est pas bonne à dire.
Ok, donc humilité,
Humilité. Donc, j'ai.
avoir de la réserve,
C'est
on va
ça,
dire.
voilà, la réserve.
Et c'est quoi la troisième?
Et la troisième, c'est. Voilà. Tu m'as perdu.
J'avoue que je me suis perdue aussi.
Quand j'ai dit les 3 temps. De l'humilité, on a dit. Et oui, et puis, savoir faire des concessions, être. Ouais, savoir faire des concessions. Le terme exact, c'est être conciliant. Non.
Être capable de s'adapter, en tout cas. Complètement. Faire
Donc.
preuve d'adaptabilité dans
Ouais.
la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Parce que la vie professionnelle aussi est pleine de surprises.
C'est
On
ça. Ne pas
peut
être.
soi-disant être au top et puis se faire licencier comme je l'ai vécu. Où,
Voilà, bien sûr.
je gagnais le President Club pour la deuxième année consécutive et puis. Je me suis fait licencier, c'était quand même intéressant.
Ouais.
Et donc ça t'apprend l'humilité, le fait que rien n'est acquis et
Ça.
tout n'est pas toujours aussi rationnel, ou en tout cas, il y a des raisons qui ne sont pas toujours partagées, communiquées. Un peu toi comme toi avec le bac, où tu te dis, mais c'est clair, j'ai mon bac, quoi. Moi, je suis plus au stade où c'est la question de la mention ou pas mention.
C'était ça, ma question, c'était la mention.
Et finalement, tu te dis, quoi, mais je ne peux pas être recalé au premier coup, c'est juste pas possible, quoi.
Je crois que j'avais eu comme 6,5 de moyenne, quelque chose que je n'ai jamais eu de toute ma vie. Alors, tu sais, avec beaucoup de recul, je me dis, d'ailleurs, si j'avais eu mon bac, je n'aurais pas rencontré ma femme. Enfin, quoique peut-être que si, mais j'aurais été dans une autre fac, je n'aurais pas été à Sorbonne, j'aurais été à Paris Dauphine, parce que j'avais été assez près de Dauphine à l'époque. J'aurais été à Paris Dauphine, est-ce que j'aurais eu le même développement? Est-ce que j'aurais rencontré les mêmes personnes? Est-ce que j'aurais eu. Bah, peut-être que je ne serais pas avec ma femme, effectivement, puisque j'aurais rencontré une autre femme à Dauphine. Écoute, c'est la vie, ça s'est fait comme ça.
Ouais.
On essaie de comprendre toujours des choses qu'on ne fait pas.
Complètement. Bon,
Donc.
on arrive à la fin de l'échange. J'aime bien. Je te laisse le mot de la fin. Tu peux partager ce que tu veux, un livre ou même une idée ou quelque chose que tu n'as pas dit, que tu souhaites partager avec les gens qui vont écouter, j'espère nombreux. Notre échange.
Moi, je prends l'homme, je crois énormément en l'homme, je prends énormément en relations humaines et relations humaines non intéressées. Et je pense que l'amitié est quelque chose d'extrêmement important parce que quand je te vois, Liliane, ça m'inspire énormément. L'amitié est extrêmement importante. J'ai la chance, moi, d'avoir des amis, mais de vrais amis. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai de vrais amis sur qui. En toutes circonstances, je peux compter. Je pense que c'est il faut voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut entretenir et voilà, je trouve que c'est toutes les choses.
Bah, c'est un super message et c'est un message qui nous va bien. Moi, je dirais que si tu as de bons amis, c'est pas par hasard. C'est parce que tu investis beaucoup. Tu es la personne que je connais qui investit le plus dans ses amitiés. Clairement. Et ça passe pas inaperçu. Bah écoute, merci, 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 merci. Mille merci d'avoir pris le temps d'échanger.
Un plaisir. C'est des choses qu'on fait régulièrement et naturellement. Donc là, je me suis dit, si ça peut être utile, pourquoi pas.
Bah, j'espère, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Je me suis fait plaisir. Serge, merci, merci infiniment. Et puis, à très, très, très vite.
De toute façon, on va se dire dans quelques jours, hein, comme d'hab.
Comme d'hab. Merci à
Ok.
toi.